is fun again. Could lose and not refrain, like we don't have a brain, like animals untamed. Am I moving fast? Are you up for a blast?
Rotor Jean Brex est un groupe à lui tout seul, un one-man band sans égal, à la fois chanteur à la voix rugueuse et multi-instrumentiste, alignant en même temps guitare-basse façon vintage, grosse caisse et caisse claire. Après un premier spectacle jeune public intitulé Rock'n'Roll Rebel, à la fois concert et conférence pédagogique, sur l'histoire et l'origine du rock'n'roll, il sillonne la France depuis 2009 et passe par Fête du Bruit en 2010. Il se lance aujourd'hui dans une nouvelle création, à découvrir cet été dans le cadre du festival Fête du Bruit édition 2016. Alors deuxième journée au festival Fête du Bruit à Landerneau, donc en ce samedi, en présence de Rotor Jean Brex, donc c'est la seconde fois que tu participes au festival, hein, si je dis pas de bêtises. Alors ça fait quoi de revenir à la maison et quel est ton ressenti sur ta prestation du jour ?
Bah, le fait de revenir à la maison, c'est toujours cool parce qu'en fait... Mon collège et mon lycée, en fait, je l'ai fait à Landerneau, donc je prenais le bus pour rentrer dans mon chez-moi, juste à côté du Family, là, juste la salle de concert à côté de laquelle on est là actuellement. Et donc, bah ouais, c'est toujours rigolo de jouer à la maison, hein. Enfin, voilà, retrouver le quai de Léon, le quai de Cornouailles, toutes ces choses pendant ma jeunesse, le tas de sable qui était là-bas, on se mettait sur la gueule avec les copains après les cours, enfin, c'était cool, quoi.
Extraordinaire. Et t'as encore un petit peu de famille dans le coin? Est-ce que t'as du monde que tu connais qui vient te voir comme ça quand tu fais des prestations locales ou en Bretagne?
Bah en fait là, disons que la famille est venue au concert gratuit que j'ai fait avant-hier, parce que c'est galère de choper des places ici, j'avais plein d'invités qui étaient partis, donc voilà, c'était dur de faire rentrer tout le monde. J'ai l'autre bout de la famille qui est venue aujourd'hui. Mais donc voilà, non, c'est toujours rigolo. Après le concert tout à l'heure, bah petit problème de pédale au tiers du concert, donc ça m'a un peu plombé, mais ça va. J'ai bien rattrapé, je pense, le coup. Les gens étaient très, très, très gentils avec moi à la fin. Donc voilà, c'était bien.
Bon, bah, c'est un bon repère, hein, quand les jeunes sont opés, qu'ils applaudissent et qu'ils sont chauds. C'est un bon indicateur. Mais c'est vrai, comme tu dis, il y a des aléas comme ça qui peuvent intervenir un peu en live. Des choses qu'on ne peut pas toujours maîtriser, d'autant plus qu'on rappelle que tu es un homme orchestre. Donc que l'on nomme également un one-man band, si je ne dis pas de bêtises. Et justement, à ce sujet, je souhaitais savoir quels étaient les instruments que tu utilisais sur scène et d'où t'étais venue cette envie de devenir artiste multi-instrumentiste.
Alors les instruments que j'utilise sur scène, c'est une grosse caisse, une caisse claire que je joue avec les pieds. Ensuite, j'ai une guitare qui part donc dans trois circuits, donc qui part dans un ampli guitare classique, un Fender Twin Reverb, qui part dans un ampli basse pour choper les fréquences un peu plus graves, pour faire du bas, quoi. Et après, ça part dans un ordinateur, enfin ça c'est la deuxième fois que je le faisais, qui en gros traite le signal de la guitare et le transforme en basse. Donc pour un truc qu'on appelle un octaveur, en gros, qui descend le signal de la corde la plus basse à une octave en dessous. Et donc et je chante par-dessus et j'ai un tambourin pour le morceau un peu love. Et voilà, avec tout ça, j'essaye de faire du bruit et apparemment j'ai réussi à faire 105 décibels tout à l'heure, donc c'était pas mal.
Bon, bah, il y aura quelques auditeurs ou quelques auditrices qui partiront dans des centres d'audition avec tous les décibels que tu as pu lâcher?
Non, parce que les gens sont prudents, ils ont mis des bouchons d'oreilles et puis ils respectent la réglementation, voilà, donc tout va bien.
Et justement, là, par rapport à ton dernier album, Straight, donc Menace en anglais, si je ne dis pas de bêtises, ouais. Donc qui va sortir en novembre 2016. Alors je souhaitais un petit peu savoir pourquoi ce titre et est-ce que tu peux nous le présenter tant au niveau des textes que de la production musicale?
Alors, c'est un album qui a une histoire un peu longue, qui a été long à sortir, puisque les titres, j'ai commencé à les écrire en 2012. Ça a été fait entre 2012 et 2013, ça a été enregistré en 2014. Après, il y a eu quelques péripéties qui ont fait que ça a été un peu bloqué pendant 2 ans. Donc là, c'était dans les limbes. Et donc là, ça va sortir en novembre et c'est un peu... ça se débouche, quoi. Ça a mis du temps à se déboucher, c'était pas simple. Mais ce qui est bien, c'est que ça se débouche. Et donc, la menace, bah, après, c'était... Bon, faut pas être trop dans le sérieux, mais bon, il y a quand même deux sports différents pour moi, la scène et le studio, c'est pas du tout la même chose. Sur scène, je suis tout seul. Sur le studio, là, j'étais avec trois collègues, donc basse, batterie et clavier. Donc c'est assez orchestré, c'est assez arrangé. C'est des morceaux que j'ai écrits contrairement au premier album qui était fait complètement avec la formule live. Là, j'ai travaillé sur l'ordinateur, donc je mettais les couches les unes après les autres et c'est comme ça que j'écris les morceaux. Donc bah, après, c'était un effort un peu solitaire et long. Après, l'idée de la menace, voilà, c'est un truc un peu qu'on peut prendre dans tous les sens. Là, la pochette, elle montre, c'est un truc très minimal avec, avec 13 barres, parce que ça porte chance. Et deux yeux qui percent au milieu. Donc, est-ce que c'est moi qui suis derrière? Est-ce que c'est nous qui sommes surveillés par ça? Enfin, voilà, c'est... Après, cette idée de menace, elle existait déjà en 2012. Bon, les trucs récents ont fait que ça s'est un peu plus apparu, parce que ne serait-ce que tout à l'heure, il y avait un hélicoptère de la gendarmerie qui est passé au-dessus de nous. Il y a des plans en béton apparemment pour bloquer le passage à Landerneau. Donc, voilà, enfin, cette idée de menace, elle est un peu, elle transpire un peu partout actuellement. Maintenant, l'idée, c'est pas de transcrire ça sur scène. Sur scène, il faut que ça reste un truc très énergique et. Essayer d'envoyer de la puissance. Mais bon, voilà, pour moi, c'est deux sports différents, donc ça me dérangeait pas de porter un propos un peu moins fun sur le disque.
Alors, une petite question par rapport aux instruments que tu utilises, et notamment les ordinateurs. En tant qu'artiste, comme ça, comment on s'adapte aux évolutions technologiques liées à l'instrumental? Est-ce qu'on a des formations? Est-ce qu'on recherche soi-même? Est-ce que ça se fait à travers des contacts, des régisseurs? Comment tu t'y prends pour avoir cette connaissance fine du matériel informatique moderne qui permet notamment, tu disais tout à l'heure, de transformer des sons que tu peux sortir en guitare sous forme de basse?
Bah, c'est une certaine appétence pour ce genre de bêtises en fait. Après, j'ai la chance d'être très bien entouré aussi par un ingénieur du son. En fait, mes deux ingénieurs du son sont des gens qui bossent sur le festival, qui bossent pour un très gros truc. Et donc voilà, c'est d'avoir ces entourages-là. J'ai fait aussi des enregistrements pour des copains, notamment les George Bernstein et The Pew Pew Fuckers, qui sont sur un label nantais qui s'appelle Super Apes. Et donc j'ai eu la chance d'enregistrer quasiment tout ce qu'ils ont fait. On va en faire encore un autre là à la fin de l'été. On va faire un album avec Kim aussi, Kim, qui a fait les premières parties de Dionysos pas mal de fois, qui a une quantité d'albums derrière lui incalculable. Et donc voilà, le fait de mettre la main dans la production, d'enregistrer des copains, tout ça, ça fait que tu retrouves à travailler avec l'ordinateur, à voir ce que ça peut faire. Et puis le fait de le mettre sur scène, moi j'étais contre jusqu'à il y a très récemment parce que je voulais être 100% bio et sans OGM. Mais il se trouve que là, pour faire la basse, il n'y avait pas trop le choix, il fallait de l'OGM. Donc j'en ai mis tout à l'heure, ça se voyait un petit peu peut-être, mais bon, voilà, maintenant je peux assumer. C'est pas... Parce que normalement les one-man band c'est très crade et très rustique dans l'image générale des one-man band. Hein. Quand tu fais du blues ou du rockab, faut que ça crache et que ça soit au plus près de l'os. Et moi ça me dérange pas de sortir un peu de ça. Voilà.
Alors j'en profite pour faire une petite aparté sur l'interview. Je souhaiterais revenir un petit peu sur le processus de création de ton album. Je voulais savoir si tu partais plutôt des textes pour aller vers une production, ou est-ce que tu construis d'abord une production pour te donner de l'inspiration au niveau des paroles?
Ça, chacun a sa sauce. Moi, ce qui est, enfin, l'expérience, parce que le fait de, ça fait 10 ans que je fais ça, donc maintenant j'ai réussi à comprendre à peu près comment je travaillais, et même le fait d'avoir fait des ateliers, d'avoir dû construire un morceau. Enfin, c'était un projet dans le Morbihan avec des lycéens, non, des collégiens, un groupe de 5 collégiens, et en fait, on avait 6 séances pour faire un morceau ensemble, donc ça m'a forcé à réfléchir à comment je faisais. Et donc au final, moi je pars de la musique et je fais beaucoup de yaourt par-dessus en fait.
Donc là j'ai cru voir qu'il y avait une petite information de la part de Cédric. Il y a une petite modification sur le programme. Donc Cédric, on rappelle que tu es attaché de presse sur le festival, Faites du bruit à Landerneau. Justement, avec Rotor, comment s'est fait la connexion pour pouvoir venir à Landerneau? Alors je passe le micro à qui? À Cédric, c'est parti. Salut Cédric.
Salut. Ben moi, Rotor, on travaille ensemble depuis le début. À la base, on avait organisé des concerts ensemble, on est des vieux potes. Il faisait de la musique, il a commencé à avoir ce projet intéressant qu'on trouvait plutôt cool. Et puis, j'ai commencé à vouloir lui filer des coups de main, trouver des dates, puis développer le projet à deux. Et c'est vrai que ça fait un peu ping-pong. On a des idées très connes, il en a plein. Des fois, j'en ai quelques-unes et puis on garde le meilleur. Et des fois, je viens perturber les interviews en donnant des infos comme ça de dernière minute, sans savoir s'il va accepter ou pas, mais je lui propose en direct non, mais de façon enregistrée, tu vois. Alors qu'est-ce que si je te proposais de remplacer Cranberry, s'ils viennent d'annuler parce que la chanteuse est gravement malade et qu'elle est repartie en Irlande à l'instant pour un set de 50 minutes ce soir, que me répondrais-tu?
Allez, bah ouais. Non mais c'est des conneries.
Alors quand on dit allez, c'est allez Dolores revient ou c'est allez j'y vais? Parce que Dolores, on rappelle que c'est la chanteuse des Cranberries. Rotor, allez de quelle manière, avec EZ ou allez et?
C'est une information qui est tellement incroyable que je pense qu'il peut pas me raconter que des conneries. Hein, même si tu sais qu'il m'a dit, il vient d'avouer qu'il avait plein d'idées très connes. Donc ça, c'est peut-être dans le domaine des idées les moins connes, mais
Mais... Alors Cédric, tu peux peut-être nous expliquer ce qui est en train de se passer.
Bah, c'est un vrai scoop en fait. Ils sont arrivés sur le site Cranberries avec une chanteuse qui pleurait, qui était en larmes, qui est mal partout. Gros problème de dos, si j'ai bien compris, elle a un disque qui doit être complètement explosé. Ça a dû lui reprendre là sur le trajet. Et ben ils veulent pas prendre de risques, ils ont essayé d'annuler, rapatriement sanitaire, avion d'urgence, retour direct à l'expéditeur en Irlande et puis elle va être hospitalisée quoi. C'est vrai qu'on rigole pas avec les stars et avec le dos des stars. Sans doute que le dos de Rotor Jean-Brac c'est encore suffisamment solide pour supporter deux concerts. On va donc lui demander gentiment de se produire sur scène. J'aurais peut-être un peu de mal à négocier le cachet de Cranberries pour lui, mais je vais essayer de faire quelque chose, enfin, j'en sais rien en même temps.
Sinon, il y a les radios associatives qui peuvent en profiter aussi comme alternantes.
Et on va surtout bien se marrer, je pense que c'est vrai que c'est jamais facile d'ouvrir à 15h un festival. Là, manifestement, il aura un peu plus de monde devant lui.
Alors bon, pour toutes les auditrices et les auditeurs qui écouteront dans les jours qui viennent cette interview, donc c'est quand même un événement extraordinaire qui est en train de se passer, entre guillemets. Donc il y a une réadaptation de la programmation, Cédric, comme tu viens de l'indiquer.
Avec logiquement aussi quelques sets qui vont être rallongés d'artistes comme Birdie Nam Nam, bon, tout ça c'est en négociation, mais ça devrait se faire, évidemment. C'est vrai qu'on a quand même un public assez jeune, donc bon, c'est triste, hein, mais on est les premiers déçus pour les fans de Cranberries. Mais voilà, ça nous est déjà arrivé une fois pour les Hives, et je m'étais retrouvé à monter sur scène pour faire un discours. Possible que je fasse un petit passage sur scène, peut-être pour introduire le concert de Rotor Jean-Brac, j'en sais rien, et annoncer la mauvaise nouvelle.
D'autant plus que Rotor nous expliquait tout à l'heure qu'il avait un problème au niveau de ses caisses, au niveau de la pédale, donc peut-être que Cédric peut assurer l'intérim. Alors au-delà du pur délire, Rotor, comment on peut s'adapter comme ça dans l'instant à quelque chose qui vient de se produire au niveau artistique ou au niveau musical ?
Bah, de toute façon, c'est mon coach. Ce qu'il dit, moi je fais. Je suis, enfin, parce qu'en fait, hors antenne, il m'appelle sa danseuse ou sa gagneuse, hein, donc je suis entièrement soumis à ses desiderata.
Très bien, bon bah voilà, alors on aura bien compris que là il est en train de se passer quelque chose d'assez énorme entre guillemets, hein. Voilà les péripéties des festivals. En tout cas on est très fiers alternants de pouvoir avoir cette information un peu en direct pour en discuter et animer un peu le débat. Je vais revenir un petit peu maintenant sur la carrière de Rotor. On pourra peut-être tout à l'heure revenir un peu sur la prestation que tu vas re-réaliser une deuxième fois ce soir. En faisant mes recherches à ton sujet, j'ai pu lire que tu étais investi dans le mouvement associatif à travers notamment des ateliers et des conférences auprès des jeunes. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ?
Alors, c'est deux questions qui sont... en fait, le mouvement associatif, c'est une question un peu à part. Il y a le truc des concerts pédagogiques en fait, pour le jeune public et tout public qui sont en fait, deux spectacles qui s'appellent Rock'n'Roll Rebel et Soul Power, qui se penche sur les origines et l'histoire de ces styles musicaux-là, le rock'n'roll et la soul, avec une question de base qui a été posée en 2009 sur un travail avec une classe de collège au Quatre Moulins à Brest. En fait, cette classe bossait sur les musiques engagées, et moi j'étais en résidence à Brest à ce moment-là, et en fait la carène, donc la salle de Brest, travaille avec cette classe-là, et donc il s'est trouvé qu'il y avait la possibilité de faire un travail croisé. Donc ça a posé la question, en quoi le rock'n'roll, qui était mon domaine à moi, était une musique engagée pour aller sur leur domaine à eux. Et ça a donné ce spectacle-là, donc qui existe depuis maintenant 7 ans. Et donc il y a un autre qui est apparu l'an dernier, qui s'appelle donc Soul Power, qui traite de la soul un peu sur la même manière, en essayant de modifier quand même 2-3 choses pour que ça soit un peu différent, quoi. Et donc ça permet de générer donc, des spectacles, il y a des ateliers autour. Là, l'année prochaine, je vais être dans le centre, je vais aller dans des classes aussi pour parler de tout ça. Et le mouvement associatif, c'est encore autre chose, où là je suis investi à Lorient dans des assos qui font de la création sonore. Et voilà. Bon, voilà, tout ça se mélange pas vraiment, même si dans l'esprit c'est un peu la même chose de cette idée d'éducation populaire en gros, quoi.
Parce que du coup, quand tu interviens dans des établissements scolaires, c'est plutôt du public, du privé ? Est-ce qu'il y a une limite ? Est-ce que tu as des frontières ? Ou est-ce que tu peux t'intégrer dans les deux systèmes ?
Bah, en fait, public ou privé, j'ai bossé pour. J'ai fait des interventions d'un côté et de l'autre, hein, après. Moi, je suis très dépendant en fait des salles de spectacle. En gros, c'est elles qui sont les relais locaux et qui ont leur relais privilégié avec les structures scolaires du coin. Et c'est comme ça que ça se passe en général. Après, c'est un peu à la carte. Il y a le spectacle, je peux intervenir en classe, on peut faire des choses autour. Là, ça, c'est variable.
Alors, on va rester un petit peu sur ces dimensions pédagogiques. Est-ce que, en tant qu'artiste, tu aurais, si tu avais un conseil à donner à nos auditrices ou à nos auditeurs qui souhaiteraient se lancer ou percer dans le monde musical, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ?
Il faut appeler Cédric.
Cédric Fautrel, attaché de presse du festival.
Non, c'est très dur à dire comment on chope le fil. Il y a une question d'être au bon endroit au bon moment, de faire les bonnes rencontres. Moi, la chance, c'est qu'on était potes avec Cédric et que, en fait, bah, Craftman Club, donc le groupe de Guingamp, en fait, on a monté tous les deux l'association, la première qui s'est occupée d'eux, d'essayer de développer le projet. Et c'est comme ça, ça fait partie des trucs qui nous ont rapprochés et qui ont fait qu'on a travaillé ensemble. Donc, moi, la chance, c'est que Cédric, en relationnel, il est très bon, il sait très bien, enfin, il a ce côté obsessif qui fait qu'il sait pousser des affaires et qu'il sait faire ça bien. Et moi, j'avais juste à mettre un peu les pieds sous la table, juste développer les conneries, jouer. Et puis ça s'est monté un peu comme ça. Donc c'est plus une affaire de rencontre. Maintenant, c'est compliqué pour les petits groupes qui commencent, trouver des lieux pour jouer. Je sais qu'à Nantes, c'est pas simple en termes de tout ce qui est voisinage et tout ça. On a pu jouer au Spoutnik avec des copains à Nantes, mais c'était compliqué de jouer dans cet endroit de là-dedans. Je crois que c'était au centre-ville. Donc il faut trouver les lieux. Après, pour les groupes qui commencent, la chance, c'est qu'il y a pas mal de systèmes de développement, de soutien aux projets émergents. Et donc ça, c'est une chance pour commencer encore. Il faut réussir à être identifié. C'est vraiment ça la difficulté, quoi. Et puis se professionnaliser, et ça prend du temps. Enfin, c'est vraiment un truc, il n'y a pas vraiment de voie. Il faut cocher des cases, mais on ne sait pas vraiment dans quel ordre il faut le faire, quoi.
Voilà, c'est essayer de faire des choix à un moment donné sans savoir. Dans le futur, il y a peut-être une dimension liée à la chance aussi qui fait que c'est au travers d'une rencontre, d'un feeling, que finalement beaucoup de choses peuvent se développer.
Ouais, il y a le temps qu'on peut y mettre aussi, parce que les groupes qui commencent, c'est généralement du côté étudiant, où on a encore un peu le temps, ou quand ça commence à travailler à côté, quand ça commence à s'installer, c'est compliqué aussi, il y a des choix à faire. Moi, la chance, c'est que j'ai pu rentrer dans le système. Et ça fait 8 ans que je fais ça professionnellement, que j'en vis. Et donc j'ai plus trop ces questions-là à me poser pour ceux qui commencent. Si on rentre pas dans les circuits bien repérés, c'est galère. Mais ils existent ces circuits, il y a de la place. Toutes les années, il y a des choses à faire. Donc faut pas désespérer du tout. C'est pas un truc. C'est juste un boulot de pèlerin au départ, quoi.
Persévérer, croire en ses rêves, on l'aura bien compris. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, cette dimension un peu formatrice ou pédagogique auprès des jeunes, toi, en tant que personne ?
L'idée de transmission, ça me plaît bien en fait. Ce truc de faire un morceau avec des gamins qui avaient une pratique musicale qui était, c'était dans le cadre du collège. Donc c'était assez faiblard pour certains. Il y avait juste l'envie sans trop de maîtrise pour d'autres. Il y en a d'autres qui avaient de la maîtrise d'instruments, mais qui étaient dans un truc de. Pas de composition justement, de reproduire des morceaux, de faire des reprises et tout ça. Donc c'est vraiment un truc de. Faire avec les autres, ça force à se poser des questions sur ce qu'on a fait soi et comment on travaille, et ça permet finalement de mieux travailler derrière.
De prendre du recul, un peu du survol par rapport à sa propre carrière. Retors Jean Brex, prof de musique peut-être un jour ?
Non, parce que j'ai aucun solfège. J'ai aucun solfège, donc prof de musique standard, non. Après, il y a des choses à transmettre, j'ai fait des accompagnements pour des groupes, accompagnement à la scène, ça c'est hyper intéressant aussi, parce que c'est un truc que j'ai eu moi, un parcours que j'ai pu faire quand je suis passé aux Vieilles Charrues. Il y avait encore les jeunes charrues à l'époque, et donc tout un système de prise en charge sur la professionnalisation, sur l'accompagnement scénique, et c'est hyper hyper utile sur... des notions très très connes et très très utiles, comme le bon travailler qui travaille avec les bons outils. Ma pédale de grosse caisse, elle n'était pas très bien, on a remplacé, on a pris une bien, c'était mieux. Enfin voilà, c'est plein de petits détails qu'il faut mettre les uns à la suite des autres pour construire le cadre où tu peux mieux travailler, en gros, quoi. Voilà.
Par rapport à l'éducation nationale, je reste un petit peu là-dessus, je voulais savoir quel était ton souvenir. Qu'est-ce que tu gardes, toi, de l'enseignement scolaire de la musique ?
C'était pas top top. C'était pas top top. Après, ça a changé, le fait de bosser maintenant avec des structures scolaires. Ça permet de voir qu'il y a des choses qui changent. J'ai bossé avec une classe orchestre à Vannes, une classe à horaire aménagé, ce qui est le genre de projet qui est vraiment super. Donc avec Mickaël Plion. Et c'est le mec qui a fait les arrangements sur mon premier album. Et on s'est retrouvé derrière pour faire une soirée donc avec la classe orchestre qui jouait sur 6 de mes morceaux, ce qui était super cool. Et sur un autre projet, en fait, il travaillait plus sur la voix, sur des choses. Moi, à mon époque, c'était la flûte à bec encore. Hein. Et la flûte à bec, c'était quand même un peu un carnage.
À la mienne aussi.
Voilà, et c'était pas forcément la meilleure manière d'entrer en contact avec la musique. Surtout que moi, j'ai pas une famille qui est très portée sur la musique au départ. Il n'y a pas de praticien, il n'y a personne qui fait de la musique à part moi. Donc voilà.
Et si tu avais un conseil à donner à l'éducation nationale pour améliorer ou dynamiser l'enseignement scolaire de la musique, est-ce que pour toi il y aurait des contenus d'enseignement un peu fondamentaux ou des connaissances que chaque élève devrait pouvoir intégrer durant sa scolarité ?
J'ai trop peu travaillé avec des gens d'éducation nationale, j'ai juste un mini aperçu, donc je me garde bien de donner des conseils sur un truc que je ne maîtrise pas. Ce que j'ai pu voir, que ça soit sur le travail avec le collège, sur la composition de morceaux, un autre travail sur une chorale, voilà, c'est... Enfin, moi, quand je suis appelé à intervenir, c'est la volonté des professeurs. Ça dépend vraiment principalement de ça. Tu peux pas arriver s'il n'y a pas une volonté professorale forte. Et donc le fait d'avoir des profs impliqués, bah, forcément on fait des projets qui ont du sens, qui sont intéressants. Et, voilà, c'est... Donc voilà, moi ce que j'ai vécu c'était bien. Voilà. Des trucs, faire venir des artistes dans les établissements, bah, c'est cool. Enfin, puis moi ça me permet de désacraliser un peu aussi la figure de l'artiste. Parce que même si on est un peu placé comme ça, enfin, c'est moins vrai, mais. Enfin, voilà, je suis pas une star, quoi. Donc,
Félicitations par rapport à tout ce que tu fais. Je pense que c'est important pour un artiste de garder les pieds sur terre et de voir ce qui se fait dans l'enseignement et de rester proche finalement du public et de la jeunesse en fait pour voir ce qui se fait actuellement et comme tu dis transmettre sa passion et son savoir quoi. Et je pense que c'est grâce à des artistes comme toi qu'on peut avoir des futurs talents également ou des jeunes qu'on puisse faire rêver. À mon sens. On va prendre un petit peu l'avion maintenant, Rotor. On va quitter le monde de l'éducation nationale pour aller pas très très loin. On va rester du côté de Guingamp, donc on est pas très très loin de Landerneau non plus. Par rapport à ton groupe, The Craftsman Club, est-ce que tu as des projets encore avec ce groupe ?
Non, j'ai rendu mon badge l'an dernier. Voire même, non, ça fait 2 ans peut-être maintenant, je sais plus trop. Mais non, bah, plus trop de projets avec. Après, peut-être qu'on se croisera sur des scènes encore. Après, on n'est pas parti fâché. Hein. C'est juste que ouais, on est arrivé au bout du cycle de l'album Eternal Life. Et moi je sentais que j'avais pas la rage de. Bah, en étant à Lorient, eux installés à Guingamp, c'était beaucoup de trajets pour les répétitions. Et je sentais que ça commençait un peu à me peser de faire la route. Et que j'avais moins la rage et que c'est important d'avoir la rage. Donc là ils ont pris quelqu'un d'autre qui est plus près, qui est plus. Qui était plus frais aussi. Donc voilà, peut-être qu'on fera des trucs ensemble, peut-être pas, je les croise, c'est cool. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Okay.
Est-ce que tu aurais des rêves de collaboration en France ou à l'international ? Voilà, si tu avais peut-être un ou deux noms, un nom français, un nom international, est-ce qu'il y a des artistes comme ça avec qui tu te dirais « Waouh, ça pourrait déboîter » ou au niveau instrumental, il pourrait y avoir une belle collusion, voilà.
Un truc qui serait marrant que Cédric avait essayé de faire, mais ça ne s'était pas fait, c'était il avait essayé de me trouver un truc avec la chanteuse des Belles Rays. Isaac Ekaola qui a une voix imbattable.
Tu peux nous parler un peu de ce groupe ?
Bah ouais, c'est Belle Rays. Donc en fait, là, maintenant, je crois qu'elle a changé de formation. Je crois que le groupe est un peu en stand-by. C'est un groupe qui mélange en fait rock vraiment hyper énergique et soul avec la voix de cette chanteuse-là qui est une diva en fait. C'est au niveau de Aretha Franklin et tout ça. C'est, ça va. Mais avec l'énergie rock punk derrière, et c'était assez terrible. Et donc ça c'est une collaboration, voilà, c'est un truc qui s'est pas fait, qui s'est jamais fait, qui se fera peut-être jamais, mais ça serait rigolo. Après moi, je suis pas du tout en train de me projeter sur la suite pour l'instant, là je suis en train de faire mes concerts, de faire des remplacements de dernière minute, parce que la phrase qui m'a mis au départ c'est quand même n'importe quoi, tu remplaces The Cranberries, c'est... Je pensais que c'était pour une interview en fait, mais non.
Au début je me suis demandé si c'était pas pour moi aussi, je me suis dit bon qu'est-ce qui se passe, parce que je devais les avoir à 18h15 également, donc malheureusement on les aura pas. Comment tu te verrais d'ici 20-30 ans ? Bah alors je sais que tu viens de me répondre un petit peu que tu étais dans ce que tu faisais actuellement, mais si, est-ce que ça t'effleure l'esprit quelquefois de te dire « Oh, qu'est-ce qui va se passer ?»
Ça fait 10 ans que je fais ça, ça fait 5 ans que je me dis que je vais arrêter l'année prochaine. Et puis les trucs s'enchaînent les uns après les autres, là. Donc franchement, je ne me projette pas. Après, d'ici 20-30 ans, je serai... Après, je sais pas, les vieux rockers, c'est rare que ça finisse bien. Donc moi, je mets pas une grosse pièce sur le fait que je finisse bien en tant que vieux rocker pour l'instant. Là, j'essaie vraiment de profiter des dates, comme aujourd'hui. Voilà, je sais que j'en aurai pas encore beaucoup, a priori. Donc voilà, je prends vraiment comme un club de foot. Hein, je prends les matchs les uns après les autres.
Vieux rocker ou vieille rockeuse, hein, je pense à Dolores du groupe des Cranberries qui a des problèmes de dos. Mais est-ce que tu fais du gainage de temps en temps pour renforcer un peu les muscles dorsaux
Je me suis remis au vélo et donc j'ai la chance d'avoir investi dans des cuissardes. Et c'est pas mal hein, parce que 2 heures de sortie ça fait un peu mal.
Ouais, les cuissardes pour la contention et le retour veineux, c'est mieux pour la récupération. Donc on l'aura compris, Rotor est un sportif de haut niveau. Quelle image tu souhaiterais qu'on garde de toi, Rotor Jean Brex, par rapport à ton travail artistique dans un demi-siècle ? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise sur Rotor Jean Brex ?
Si quelqu'un se souvient de moi dans un demi-siècle, à part moi, déjà ça. Si je suis encore là dans un demi-siècle, hein, j'aurai 87 ans, ouais. Jouable, peut-être, hein, mais j'ai fait un test sur internet, ils m'ont dit que j'allais crever à 84, donc...
Il y a encore de la marge, alors, c'est bon.
Se souvenir de choses dans 50 ans, non, c'est déjà que les gens passent un bon moment là, et qui mettent un chouette commentaire sur Facebook, c'est déjà le bout du monde pour moi, donc voilà. On resterait très, très, très proche du terrain, quoi.
En parlant du bout du monde, le festival du bout du monde, ça te parle ?
Ah grave, moi je suis musique du monde à mort, hein. tu me connais quoi maintenant, hein. Tu vois d'où je viens.
T'aimerais un jour, alors, est-ce que tu... ça pourrait être une idée d'aller au Festival du Bout du Monde, peut-être à Crozon, maintenant que t'es passé à Landerneau, et au Vieilles Charrues également?
Bah je suis déjà allé en tant que spectateur et en tant que mec qui faisait de la radio, mais je pense que dans l'affiche, je sais pas trop quelle est ma place en tant que mec qui fait pas de musique du monde dans un festival de musique du monde. Ça me semble un peu compliqué et tendu, mais s'ils veulent bien de moi, moi je suis prêt à venir, hein, y a pas de problème.
Maintenant que tu remplaces les Cranberry, je crois que ta notoriété va quand même exploser un peu plus pour une deuxième prestation. En tout cas, on te souhaite donc une belle soirée encore, puisque tu vas reprendre du service dans quelques temps. Une dernière question, et je te laisse tranquille après, parce que je vois que Cédric s'active aussi un petit peu à côté. S'il y avait une musique que tu souhaiterais qu'on passe pour le montage de l'interview, on choisirait laquelle? Un son de toi, bien évidemment.
Un son de moi, bah avec le CD promo, tu prends la deuxième en fait, hein, et puis Cut Loose, qui est le premier extrait, et puis voilà.
Bah merci, tu me facilites un petit peu mon boulot alors pour après. Bonne soirée à toi, Rotor Chambrex, et merci pour cette belle interview et surtout cette interview très animée et dans l'instant présent. Bonne continuation, salut à toi.
Merci.
Think of that around the passing time, because the time is now, and the second is good.